pourvoi en cassation envisagé aussi pour les avocats des 7 d'Océanis poursuivis pour des dégradations lors de manifestations anti-chlordécone. 2 sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis, les 5 autres à 6 mois ferme sous bracelet électronique. Le Sénat adopte un compromis sur la proposition de loi visant à reconnaître la part de responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone. Des déceptions se manifestent sur le volet indemnitaire du texte. 260 morts et un seul et unique survivant, c'est le bilan provisoire du crash d'un Boeing 787 d'Air India aujourd'hui dans le nord-ouest de l'Inde. Raphaël Confiant se confie sur sa vie, son œuvre et son tout dernier roman. C'est ce soir dans À la page. Erika Govindorazo vous donne rendez-vous à partir de 18h30. L'arrivée du quintet à Longchamp, 7, 2, 10, 9, 11.
Oh bah, je suis ravie d'accompagner.
Rodrigue Petitot et ses avocats annoncent donc qu'ils vont se pourvoir en cassation en dépit de la diminution de la peine prononcée ce matin par la Cour d'appel de Fort-de-France. Poursuivi pour des actes d'intimidation et des menaces envers des élus, le leader du RPRAC a été condamné à 6 mois de prison ferme aménageable sous bracelet électronique. Il échappe en revanche à la déchéance de ses droits civiques ainsi qu'à la peine d'inéligibilité requise par le parquet. Rodrigue Petitot sera jugé également dès le 19 juin prochain, cette fois dans le dossier de l'intrusion à la résidence préfectorale. Le parquet a en effet fait appel de la condamnation à 1 an de prison avec sursis prononcé en janvier dernier. Un acharnement dénoncé par l'un des avocats du R, maître Georges-Emmanuel Germani, joint par Kathleen Bilas-Copette.
D'autres affaires sont à venir, on s'en doute bien, puisque face à la victoire annoncée de tous ceux qui se battent contre la vie chère et notamment la tenue, qui ont obtenu la tenue de ces assises de lutte contre la vie chère, eh bien, les forces du mal, les forces brunes, les forces d'extrême droite, les forces qui se sont emparées du ministère de l'Intérieur vont essayer de ramener la lumière sur des affaires judiciaires, sur des attaques judiciaires, parce que c'est ça seulement qu'ils sont capables de produire. Ils ne sont pas capables de s'intéresser aux souffrances du peuple et d'y apporter des remèdes du genre faire baisser les prix ou augmenter le pouvoir d'achat. Ça, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est détruire la vie des gens. Et ils ne sont pas au service du peuple.
Maître Germani avec Kathleen Bilas-Copette. Et c'est aussi la procédure du pourvoi en cassation qui devrait suivre très probablement le délibéré prononcé aujourd'hui dans l'affaire dite des 7 d'Océanis. Ces militants sont poursuivis pour des violences aggravées en réunion contre des gendarmes, participation à un attroupement et dégradation lors de manifestations anti-chlordécone qui s'étaient tenues le 23 novembre 2019 devant le centre commercial Océanis au Robert. 2 des 7 sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis, les 5 autres à 6 mois ferme sous bracelet électronique. Une décision que conteste maître Dominique Monotouka. L'avocat de 6 des prévenus estime que le jugement ne repose pas sur les principes fondamentaux du droit.
Cette décision n'est pas une décision fondée sur le droit. C'est une décision qui, selon moi, manifestement, est fondée sur une volonté politique, je dirais même politicienne, visant à intimider, à dissuader les militants anti-chlordécone. Rappelez-vous, les prévenus tous avaient été relaxés en première instance par le tribunal correctionnel de Fort-de-France. La décision est parfaitement motivée. Les choses sont claires sur le plan du droit, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais il s'avère en fait que, pour des raisons, je le répète, purement d'intimidation, certains ont décidé en fait qu'il fallait condamner ces hommes de façon non seulement à les dissuader, mais à dissuader ceux aussi qui... Et ils sont nombreux, des centaines, militent pour que la dignité des Martiniquais et des Martiniquaises soit respectée.
Maître Monotuka au micro de Mélissa Grutus. Le mineur de 14 ans qui a tué une surveillante de son collège à Nogent mardi à coups de couteau est placé en détention provisoire. Quentin, c'est son prénom, est mis en examen pour meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public, une circonstance aggravante. Il est aussi placé sous le statut de témoin assisté pour des violences aggravées sur un gendarme lors de son interpellation. Le collège de Nogent, comme les établissements scolaires de toute la France et de la Martinique, a observé aujourd'hui 1 minute de silence en hommage à la victime âgée de 31 ans. La rectrice d'Académie de la Martinique a également rendu cet hommage en présence de plus d'une cinquantaine de membres du personnel rassemblés dans la cour du rectorat. Nathalie Mons souhaite désormais comprendre ce qui pousse nos jeunes à s'armer et à agir de la sorte. Elle s'est confiée au micro d'Agathe Auriol.
Une minute de silence va être observée sur notre territoire également.
Ce deuil aujourd'hui, cette actualité tragique, nous invite aussi à réfléchir aux causes qui amènent aujourd'hui les jeunes à présenter des armes dans les établissements, des armes blanches. Nous y réfléchirons avec des chercheurs. Je crois qu'il faut essayer de comprendre pourquoi certains nous disent qu'ils viennent avec des armes blanches pour se protéger. De quoi pensent-ils se protéger sur le chemin de l'école? Nous devons aussi réfléchir certainement aussi aux jeux vidéo qui fait peut-être basculer nos élèves dans des mondes parallèles. Il y a donc des interrogations très importantes que nous devons conduire autour de la circulation des armes blanches dans les établissements.
La rectrice d'Académie, Nathalie Mons. Un récidiviste du port d'armes prohibées placé en garde à vue. Mardi dernier, le 10 juin à 16h, deux policiers de la brigade motocycliste ont tenté de contrôler le pilote d'un deux-roues sur l'avenue Maurice Bishop à Fort-de-France. L'homme a refusé d'obtempérer, allant jusqu'à blesser les policiers lors de son interpellation. L'individu était en possession d'une arme de poing de type Glock, chargée, alors qu'il fait déjà l'objet d'une interdiction de détenir une arme, interdiction valable 10 ans. L'homme a été placé en garde à vue en attendant une probable nouvelle mise en examen. Les chauffeurs de bus desservant la CACEM veulent des garanties sur leur avenir. Depuis ce matin, une quarantaine de lignes du réseau Centre ne sont pas desservies suite à la mobilisation au sein de plusieurs entreprises de transport. Leurs salariés se sont regroupés devant le centre de l'Étang Abricot dans l'attente d'une rencontre. Ils demandent des garanties sur l'application d'accords sociaux précédents et en particulier sur le versement d'une prime accordée par l'ancien président de Martinique Transport. Les chauffeurs s'interrogent aussi sur la future délégation de service public qui doit entrer en vigueur au mois de septembre. Jean-Guy Aliveau, délégué syndical, avec Morgane Garnier.
On est mobilisé par rapport aux accords sociaux qui ne sont pas respectés au niveau de Martinique Transport et certains accords qui ne sont pas respectés au niveau des entreprises. Donc notre mobilisation se divise sur pas mal de choses. Là, on attend la suite des événements. On est là, hein. Depuis ce matin, on est mobilisé. On a déjà donné des appels au niveau des différents responsables qui n'ont toujours pas rendu réponse. Donc on attend. On est prêt à la discussion, à se mettre autour d'une table afin que tout ce problème puisse être réglé au plus vite. On veut des réponses concrètes par rapport à notre situation et surtout aussi, on en fait le marché. Il faudra que l'on puisse savoir dans quelle situation on sera sur la fin du prochain marché. Nous, on s'attend à beaucoup, pas mal de choses, mais qu'est-ce qui nous va faire croire qu'on sera dans telle ou telle situation, on ne peut pas vous dire. Nous, on a des questions, il faudra qu'on les pose afin qu'on nous réponde concrètement.
Et le débrayage devrait continuer jusqu'à ce que les agents soient reçus par le nouveau président de Martinique Transport, Arnaud-René Corail. Concernant le transport maritime, c'est encore devant la justice que s'affrontent les associations d'usagers et les gérants des vedettes Blue Lines. Contrainte par décision judiciaire à reprendre son service maritime le 7 mai dernier, la société conteste aujourd'hui une injonction la condamnant à une astreinte de 5 000 € par jour de retard. Pour les usagers, l'objectif de la démarche n'était pas de s'enrichir, mais bien de faire bouger le secteur au profit de ceux qui en ont besoin. Serge Sainte-Rose, le représentant de l'Association des usagers du transport maritime, l'a expliqué au micro de Mélissa Grutus.
La première décision qui avait été rendue par le tribunal judiciaire nous allait placer au moment que ça a mis une pression. Cette pression est importante parce qu'il faut faire bouger les choses. Je pense parce qu'il y a eu cette pression qu'il y a eu une décision de mettre en place un bateau provisoire fin mai, mais ce n'est pas suffisant. Je rappelle que 15 pilotes à ce jour n'est toujours pas desservi parce qu'on pense toujours aux pointes du bout, mais on a les usagers de 15 pilotes qui eux sont à l'arrêt. On pense que c'est, alors j'ai entendu de nouveau que c'était du confort, que c'était, ça permettait de gagner du temps. Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas aller au boulot. Il y a des gens qui perdent leur emploi. J'ai des usagers qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoutez, on m'a pas renouvelé mon contrat sur Fort-de-France parce que je suis en retard et que, parce que au niveau des bus, non plus, ça fonctionne. Alors, c'est une problématique globale, hein. Donc, nous continuons à vouloir garder cette pression sur Martinique Transport. Le but n'est pas de se faire de l'argent. Le but, c'est de faire fonctionner. Le but, c'est que le service aux usagers soit rendu par le transport maritime. Et ça, tant que ça ne sera pas fait, nous, les associations, nous mettrons en place les actions qu'il faut.
La décision du tribunal a été mise en délibéré au 10 juillet prochain.
18h, 18h30, toute l'info sur RCI.
18h10, même si elle s'est atténuée par rapport à hier, la brume de sable qui affecte la Martinique depuis le début de la semaine est toujours bien présente. Madininer maintient un indice atmo mauvais sur l'ensemble du territoire. La procédure d'alerte sur persistance reste toujours activée. Demain, vendredi, les prévisions indiquent que les concentrations en particules fines devraient rester encore élevées. Pour Emmanuel Florent, docteur et allergologue, certaines préconisations sont donc de rigueur. Il l'a dit au micro de Thomas Gendre.
L'exposition répétée à la brume de sable, comme on le constate aujourd'hui, expose la population générale et les populations vulnérables en particulier à une inflammation des voies respiratoires et également à des risques cardiovasculaires. La brume de sable augmente le risque d'exposition aux polluants et aux allergènes, donc augmente le risque de manifestations allergiques telles que l'asthme, la rhinite, donc l'inflammation des voies aériennes supérieures, la rhinite et la conjonctivite allergique. S'agissant des patients vulnérables, les enfants, les personnes âgées, les patients souffrant de maladies respiratoires, notamment les insuffisants respiratoires chroniques, les asthmatiques, les insuffisants cardiaques. Il est important que ces populations vulnérables prennent des précautions lors de cette période de brume de sable, d'éviter de sortir si c'est pas nécessaire. Si leur maladie est décompensée, donc en d'autres termes, si leur maladie est déséquilibrée, il convient qu'elles se rapprochent de leur médecin traitant ou des personnes, des spécialistes qui les suivent respectivement pour leurs problèmes, afin qu'un traitement soit mis en route dans le meilleur délai possible.
Le texte du député de Guadeloupe, Élie Califère, voté en février 2024 par l'Assemblée nationale, a été adopté par le Sénat aujourd'hui, visant à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser les victimes du chlordécone. Le texte modifié en commission n'évoque au final qu'une part de responsabilité et le préjudice moral d'anxiété a été retiré du texte. Le sénateur martiniquais Frédéric Buval a manifesté sa déception à l'issue du vote. On l'écoute au micro d'Aline Druel.
C'est encore de la parlotte et c'est normal que les concitoyens de Guadeloupe et de Martinique disent qu'on ne voit pas comment ça avance puisqu'il n'y a pas de mesures concrètes. Ce sont des mesurettes. Les mesurettes ne font pas avancer la chimique. Donc nous sommes là pour qu'on reconnaisse l'état de catastrophe sanitaire et les deux territoires sont impactés. Qu'en fait-on physiquement? Qu'en fait-on financièrement? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on fait des mesurettes, on pense déjà aux 40 milliards d'économies qu'il faut faire sur le budget 2026. Il faut le dire. Il ne faut pas qu'on se cache la tête sous un oreiller. Donc là, si on fait des mesurettes, on va avancer à petits pas. J'entends bien ceux qui disent qu'on va avancer à petits pas. Ça ne m'intéresse pas d'avancer à petits pas. Parce que dans 10 ans, on va encore avancer à petits pas. Il y en a qui disent un pas amène l'autre. Mais si on fait un petit pas, eh bien dans 10 ans, on va faire un seul pas.
Pour Manuel Valls, qui avance des arguments juridiques, il n'y a pas de reconnaissance amoindrie des préjudices par l'État. Le ministre des Outre-mer est au micro d'Aline Druel.
Il reconnaît tous les autres préjudices, mais il se trouve qu'il doit être consolidé juridiquement par le Conseil d'État. Il s'agit évidemment de en rien nier le préjudice moral qui existe. Et je pense qu'on avancera sur ce sujet. La reconnaissance est là, des préjudices moraux, surtout physiques, bien évidemment, parce que c'est ça qui compte avant tout, économiques et sociaux, écologiques aussi. Donc l'ensemble des préjudices sont reconnus. Il faudra aller plus loin. Attendons la décision du Conseil d'État. L'État, vous le savez, a été condamné par la Cour d'appel administrative sur le dossier de 11 personnes, dont 9, la Cour d'appel l'a reconnu, sont liées à ce préjudice moral. Donc laissons la jurisprudence consolider cet élément-là. Moi, je ne pinaille pas, il faut avancer, je veux dire à mes compatriotes martiniquais et guadeloupéens, que nous avançons et que je ne les oublie pas et que nous agissons en toute transparence.
Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Christian Tin a été libéré aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris après un an en détention provisoire en Alsace dans l'enquête sur les émeutes mortelles en Nouvelle-Calédonie lors du printemps 2024. Placé sous contrôle judiciaire, le leader indépendantiste kanak a interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie ou d'entrer en contact avec d'autres protagonistes du dossier en attendant la tenue du procès. La Cour d'appel a également remis en liberté trois autres militants indépendantistes incarcérés dans l'Hexagone. Les images des enfants hospitalisés et de leurs mères réclamant de quoi les nourrir provoquent un regain de solidarité envers les habitants de la bande de Gaza. Sur notre île aussi, le sort du peuple palestinien soumis au blocus de l'armée israélienne soulève l'indignation. Hier soir, ainsi, malgré la pluie, une cinquantaine de personnes a répondu à l'appel à manifester lancé par le collectif Martinique Palestine Solidarité. Ils demandent notamment l'arrêt des ventes d'armes de la France à Israël et la reconnaissance d'un État palestinien. Matisse a fait le déplacement pour participer à cette manifestation, une démarche qu'il a expliquée au micro de Mildred Mergeri Adel.
Et je cherche à rencontrer les personnes en Martinique qui prennent position sur le génocide à Gaza et puis essayer de se rassembler, essayer de trouver des solutions, voir s'il y a des structures en fait qui proposent des solutions localement. C'est pas un phénomène dont on parle en Martinique. Or, le colonialisme ou les génocides, ben c'est quelque chose qui, ben on est concerné par ça. Et comme d'autres injustices en fait, comme d'autres dominations à grande échelle, ouais, on est concerné par ça en fait. Et ça m'étonne pas, mais ça m'attriste de voir que ben non, en fait, la Martinique ne sont pas spécialement mobilisés, mais en même temps, on a tellement de luttes, les droits de l'être humain et que la protection du vivant, que la justice, c'est l'affaire de tous, et que il faut pas croire qu'on n'est pas concerné parce que c'est juste une question de temps en fait.
Voilà, l'un des manifestants qui soutenait la cause palestinienne hier soir à Fort-de-France. Il est 18h16 sur RCI. Un crash aérien qui fait un survivant sur près de 300 personnes. C'est après la pause.
Tout savoir sur la collecte des médicaments avec Cyclamed. Cyclamed collecte et valorise les médicaments périmés, utilisés ou non, déposés par les patients dans les pharmacies. Au téléphone avec nous, Thierry Moreau-Desfarges, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Cyclamed. Alors, quel est l'objectif de cette collecte?
Notre objectif, c'est en trois mots. Trier, apporter, préserver. Mmh. Nous invitons chacun à identifier et à trier à son domicile les médicaments, sauf la parapharmacie, les produits d'hygiène ou les dispositifs médicaux.
D'accord.
Ensuite, on met les écus en carton et les notices dans le bac de tri avant d'apporter uniquement les médicaments à la pharmacie.
Pourquoi cette collecte?
Cette collecte évite de jeter des médicaments dans les poubelles d'ordures ménagères ou dans les toilettes, ce qui peut entraîner un risque de pollution des eaux.
Oui, c'est donc un éco-geste pour préserver l'environnement. Alors que deviennent les médicaments collectés?
Ils sont éliminés proprement, en toute sécurité, puis valorisés. L'énergie dégagée par leur incinération permet de chauffer et d'éclairer des milliers de logements chaque année.
Ah, parfait. Alors, on se renseigne où?
Sur cyclamed.org ou dans sa pharmacie.
Merci. La fête des pères, c'est le dimanche 15 juin et pour lui trouver le cadeau qui lui fera plaisir, direction la Galeria. Et parce qu'un papa, c'est aussi un partenaire de jeu. Samedi 14 juin, de 15h à 19h, la Galeria invite les papas et leurs enfants dans un espace gamer réservé rien que pour eux. Simulateur de vol et de pilotage, casque de réalité virtuelle, jeux vidéo, tout pour passer un moment père-enfant 100% fun pendant que maman cherche le cadeau parfait. La Galeria, ma ville à moi. Et pour les retardataires, la Galeria sera ouverte le dimanche de la fête des pères jusqu'à 13h. Bonne fête à tous les papas!
La ville est votre terrain de jeu. Il vous faut la citadine qui va avec. L'agilité de l'Audi A1 redéfinit vos trajets. Sa boîte automatique S-Tronic transforme chaque embouteillage en un moment de pure détente. C'est bien plus qu'une citadine. C'est votre entrée dans l'univers Audi. L'Audi A1 à retrouver chez Audi Martinique à partir de 29 999 euros. Audi. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin 2025. Voir conditions en concession. Pensez à covoiturer.
Le Tout Info avec Dominique Giraud sur RCI.
18h18. Il venait à peine de décoller à destination de Londres. Un Boeing 787 d'Air India s'est écrasé aujourd'hui à Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde. L'accident a fait au moins 265 morts, dont une vingtaine dans les immeubles que l'appareil a percuté avant de s'embraser. Un unique survivant a pu s'extraire de la carcasse. Vishma Kumar Ramesh, 40 ans de nationalité britannique, a pu présenter sa carte d'embarquement. Il occupait le siège 11A, le plus proche de la porte donnant sur l'aile de l'avion. À Londres, la correspondance de Marie Billon.
Ce survivant, c'est un ressortissant britannique, il s'appelle Vishwa Kumar Ramesh, il a 40 ans. Tout s'est passé très vite, c'est ce qu'il a dit au journal Hindustan Times. L'avion n'a été dans les airs finalement qu'une trentaine de secondes. Et puis après le crash, il y avait des corps tout autour de moi, a encore dit Monsieur Ramesh. J'avais peur, je me suis levée, j'ai couru, il y avait des morceaux de l'avion partout. Quelqu'un m'a attrapé, m'a mis dans une ambulance et m'a emmené à l'hôpital. Le journal publie aussi une photo de la victime sur son lit, avec des plaies sur le visage. Il est aussi blessé à la poitrine et aux pieds. Il a cependant pu parler à sa famille qui vit à Leicester, dans le centre de l'Angleterre, là où il devait rentrer ce soir. Son cousin, Andrzej Walgi, a parlé à la BBC.
On est tous bouleversés. On attend de savoir un peu plus ce qui s'est passé. Mais il n'est pas que mon cousin, c'est aussi mon meilleur ami. Je suis vraiment très affecté.
Un autre cousin, le frère du survivant, était aussi dans cet avion, sur un autre rang. Il semblerait, comme tous les autres passagers, il n'est pas survécu. Le Royaume-Uni abrite l'une des plus grandes diasporas indiennes au monde, avec 1,8 million de ressortissants, ce soir très touchés par ce désastre aérien.
Sur les plus de 100 millions de poissons pêchés par an dans le monde, 1 sur 5 est pêché illégalement. C'est ce que révèle un rapport de la Fondation de la mer qui dénonce un fléau économique, social et environnemental. Les bateaux chinois qui ratissent les océans jusqu'en Amérique du Sud et qui pêchent tout, y compris les espèces protégées, sont dans le collimateur. Lors du sommet de l'ONU consacré aux océans qui se tient cette semaine à Nice, la France a confirmé sa politique de destruction systématique de ces navires illégaux, une mesure qui sera tout particulièrement appliquée au large de la Guyane. Virginie Garin est montée à bord de la frégate de la marine La Provence.
Tous les bateaux de la Marine nationale ont pour mission de contrôler la pêche illégale. Des marins sont formés pour accoster, vérifier les licences, la taille des poissons. Sur une carte du monde, le général Xavier Desceptes nous montre en rose les zones contrôlées principalement. La Guyane, l'océan Indien et la Polynésie.
On a doublé les quantités qui ont été saisies en 2024. Donc plus de 230 tonnes de poissons, plus de 150 km de filets qui ont été saisis.
465 contrôles ont été effectués, une trentaine de bateaux interceptés, dont 19 escortés jusqu'à la côte et détruits sur un site spécialisé en Guyane.
En augmentant notre pression sur la pêche illégale, on va avoir beaucoup plus de bateaux à neutraliser. Et si on veut être parfaitement efficace, il faut qu'on puisse la faire en haute mer.
C'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'écologie, qui a obtenu la destruction en mer.
Donc on va les couler, on les dépollue sur l'eau et on les détruit sur place. En fait, on enlève tout ce qui est susceptible d'avoir un impact sur la biodiversité. C'est essentiellement le carburant, le moteur, les liquides et les filets.
Le reste des bateaux ira au fond de l'eau, servir de récif pour les coraux.
Et la France a mis à profit ce sommet de l'ONU sur les océans pour présenter un plan contre la pollution plastique. Actuellement, en effet, notre pays doit verser chaque année à l'Europe plus d'1,5 milliard d'euros pour les 2 millions de tonnes d'emballages plastiques non recyclés. Le quintet, aujourd'hui, il s'est couru à Longchamp. Pour l'emporter, il fallait jouer 7, 2, 10, 9 et 11. Demain, c'est à Paris-Vincennes que va se disputer le Grand Prix du vendredi 13. 16 partants sont attendus pour parcourir les 2100 mètres après le départ à 14h15. Marc Cadas vous propose de jouer 4, As, 8, 16, 9, 15, 10, 7. Je répète, 4, As, 8, 16, 9, 15, 10 et 7. Pour le 2 sur 4, Marc vous propose l'As et le 4. Il est 18h23, c'est la fin de notre édition. 18h30, Raphaël Confiant, invité exceptionnel de À la page.
Merci beaucoup à Dominique Giraud. On vous retrouve tout à l'heure à 19h pour le dernier flash de l'actualité locale. Et dans quelques instants, vous l'avez entendu, votre rendez-vous littéraire fera son entrée. Alors surtout, ne touchez à rien.
Accident ? Embouteillage ? Vous êtes témoin d'un événement important ? Ne gardez pas l'info pour vous. Appelez notre ligne d'urgence 05 96 63 31 31. Votre vigilance fait la différence. Grâce à vous, notre communauté reste informée en temps réel. 05 96 63 31 31. Votre numéro d'urgence pour une info immédiate. Ensemble, restons connectés. C'est votre ligne, alors utilisez-la. 05 96 63 31 31.
L'espace loisirs ZIP, votre soirée compas. Tous les dimanches de 18h à 1h du matin à l'espace loisirs ZIP. Compas sous compas. En platine, DJ Master Joe, le boss du compas. À 13€ plus une conso, Ladies Night toute la nuit. Possibilité de restauration. Votre rendez-vous compas. Tous les dimanches dans la vraie discothèque de Martinique. L'espace loisirs ZIP. Info 06 96 22 19 77.
Leclerc.
Du 11 au 22 juin, c'est la foire aux pneus chez Leclerc. Montage, équilibrage, valve gratuit dans le centre pneus cash de votre choix sur la sélection de pneus proposés en magasin. Valable jusqu'au 22 juin dans vos Leclerc Galeria, Place d'Armes et Rond-Point.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Prêt à faire tourner les têtes avec le nouvel Opel Mokka ? Démarquez-vous avec de toutes nouvelles technologies. Nouveau design audacieux, nouveau moteur. Faites tourner les têtes avec le nouvel Opel Mokka. À découvrir chez Opel Martinique.
AutoGM, la garantie des grandes marques.
Pensez à covoiturer.
La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses, anana. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses, anana. J'ai encore merdé. Tu connais la noche, tequila zol. Pas en couche, ça met des monstres sans gros tapé. La soirée rentable, je commets l'attentat. J'ai fini dans sa story. Je suis infréquentable, je retiens le temps pas. Si tu connais, tout va trop vite. Dans les dames d'hommes. Dans les jata jata. Dans les dames d'hommes. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme.
My girl, faut tout doux. Au sable, moi, toujours ni un brand new. Pour check, moi, faut qu'on prenne rendez-vous. Moi, ni un temps, femme, qui m'en est tune. Moi, quand tu choisis, fais l'amour, fun, true.
Un real Batman, mais ça n'importe qui joue. Moi, vivez, caille, maman, et puis y'a pas quel bijou.
J'suis un vagabond, selon ton daron. Il dit que j'suis pas fréquentable, mauvais garçon. J'suis un vagabond, selon ton daron.
Vibes cartel, dick,
sure,
bunny. Kiss me, baby.
La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas.
C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. Oh, you, you.
Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses, oh, non, non. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses, oh non, non, non.
Il est l'heure de savourer un délicieux yaourt Yoplait.
Yoplait, fabriqué en Martinique.
L'heure avec votre magasin Bricorama Fort-de-France.
Bricorama.
Ensemble, faisons grandir vos idées.
Il est 18h30 sur votre radio préférée.
Bon tout le monde, on finit vite nos assiettes. C'est l'heure de... Mes péchés mignons.
Des péchés mignons ? Attends papa, il y en a plusieurs ?
Bien sûr ! Il y a le panier de Yoplait pomme et cannelle et le panier de Yoplait framboise. D'un côté, des morceaux fondants de pomme et une touche de cannelle parfumée. Et de l'autre, la fraîcheur acidulée de la framboise.
Mmh.
Deux saveurs irrésistibles.
Oh, moi je vais goûter les deux.
Yoplait.
Nouveau panier de Yoplait, pomme et cannelle ou framboise. Panier Yoplait, le plus gourmand des yaourts aux morceaux de fruits généreux.
Yoplait.
fabriquer un martini.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
Envie d'un espace extérieur à l'abri du soleil et des intempéries? Découvrez le store de jardin à Manivelle, 3 mètres par 2,50 mètres, au prix de 169 € seulement, disponible chez Bricorama Martinique. Un design robuste avec une armature 100% aluminium, une toile haute qualité bicolore et des bras renforcés en aluminium. Profitez d'un confort optimal et d'une installation facile. Et pour une évacuation parfaite, la gouttière enclavée est intégrée dans la barre de charge. 169 €. Oui, oui, c'est le prix du confort dans votre magasin Bricorama.
Ensemble, faisons grandir vos idées.
Et si l'heure était venue de vous offrir une expérience café incomparable avec Nespresso? Jusqu'au 15 juin, profitez de nos offres irrésistibles en boutique et en ligne. Jusqu'à 50 € de remise immédiate et 30 capsules offertes pour l'achat d'une machine Nespresso. Un goût inoubliable, une technologie innovante. Rendez-vous en boutique Nespresso à la Véranda, la Lézarde, Genipa, Océanis ou sur Nespresso.mq pour en profiter. Nespresso, what else?
La page, le magazine littéraire de RCI, présenté par Erika Govendorazo.
On vous l'a annoncé, et Raphaël Confiant est l'invité d'Erika Govendorazo pour votre rendez-vous littéraire à la page. On leur fait place. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans À la page, votre rendez-vous littéraire du jeudi soir sur RCI. Il est des voix, des figures qu'on n'approche pas à la légère. Parfois elles dérangent, parfois elles déroutent, mais elles ne passent jamais inaperçues. Mon invité d'aujourd'hui est l'une de ces voix. Romancier, essayiste, professeur, mais surtout militant de la langue créole et de la mémoire collective. Il a été 2 fois finaliste du prix Goncourt, co-auteur de L'éloge de la créolité et auteur d'un dictionnaire de créole martiniquais devenu une référence. Raphaël Confiant, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Vous revenez aujourd'hui avec un roman audacieux, fort enraciné dans l'histoire de Lanville, de Fort-de-France, La Savane, Papa de Gaulle et La Négresse en des veines, paru chez Caraïbes Éditions. Au programme également de ce soir, le coup de cœur du libraire qui nous emmène dans une librairie indépendante de Fort-de-France. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez À la page.
Erika Govendorazo, À la page, le magazine littéraire de RCI.
Raphaël Confiant, vous êtes né au Lorrain le 25 janvier 1951. Dans une famille d'instituteurs, vous avez étudié les sciences politiques, puis la littérature et surtout, vous avez fait du créole un terrain de lutte et d'amour. En vous lisant, on sent que votre œuvre est une forme de reconquête, celle d'une langue, d'une histoire, d'une voix. Qu'est-ce que ça représente d'écrire pour vous? Est-ce qu'on arrive à mettre des mots sur ce ressenti-là?
À la vérité, quand les gens me posent la question de savoir pourquoi j'écris, Je suis incapable de répondre. Je n'ai pas une vocation d'écrivain. C'est quelque chose qui se forge en vous, presque à votre insu. C'est comme mon
amour. Ça vous dépasse ?
Oui, c'est comme mon amour pour la langue créole. Au départ, j'étais un gamin qui faisait comme tout le monde dans les années 60. J'étais gamin. On parlait français à la maison et on parlait créole de la dehors ou de la cour de récréation. Donc j'avais pas Alors inconsciemment. Le fait d'écrire mes premiers livres en créole, parce que mes 5 premiers livres
étaient en créole,
c'est rarissime qu'un écrivain martiniquais ou guadeloupéen écrive d'abord ses livres en créole. Pourquoi je l'ai fait? Je pense que c'est inconscient et que c'est une reconquête d'une langue que...
Oui, c'est pour peut-être se réapproprier ce qu'on a tenté de vous faire un peu oublier par rapport à l'époque, le contexte de l'époque.
Oui, c'est-à-dire que heureusement mes parents ne m'ont jamais interdit de parler créole, mais autour de moi, il y avait l'interdiction à l'école. Il y avait ces affiches, il interdit de cracher par terre et de parler créole.
Sur l'affiche?
Ah ben oui, dans les couloirs de l'école, mais c'était quelque chose de tout à fait banal et courant en Martinique. Donc interdit de cracher par terre et de parler créole, quand vous avez cette injonction,
wow.
Ben, quelque part, ça ne nous empêchait pas de parler créole. De toute façon, mais je veux dire que ça reste quelque part en vous.
Bon. Ensuite, vous écrivez à la fois en français et en créole. C'est dans cet entre-deux vibrant qu'est votre signature. Certains vous reprochent vos audaces linguistiques, d'autres saluent votre inventivité. Est-ce que vous vous sentez parfois en rupture avec cette littérature-là, ou est-ce que vous pensez que vous la transformez de l'intérieur?
Ben, c'est-à-dire qu'il fallait que nous trouvions notre propre langue. Quand je dis notre propre langue, en fait, je devrais dire nos propres langues. Parce que nous avons le créole et nous avons le français antillais ou le français martiniquais. Je prends un exemple très banal que l'auditeur comprendra. Est-ce que quand quelqu'un qui habite Terreville dit « je vais à Chelchia, il dit, je vais au village. Ou est-ce que s'il remonte, je vais sur la colline. Mais pourtant, colline et village sont des mots absolument banals. Mais
français,
pourtant, ça le représente absolument. Mais si on me dit, je monte sur la colline, je vais éclater. Même s'il y a un endroit qui s'appelle la colline, mais enfin, je veux dire, aucun Martiniquais ne dit ça. Donc, nous avons notre français à nous, qu'il fallait travailler. Parce que l'écrivain ne reproduit pas la langue de tous les jours, attention. Contrairement à ce que les gens croient. Il se base sur la langue réellement parlée, mais il la travaille, il la transforme. Donc, les deux bases sur lesquelles nous devrions travailler, c'était d'abord le créole, ça a été fait très tardivement, et puis construire un français antillais, ça avait déjà plus ou moins commencé avec des auteurs comme Zobel, etc., mais pas de manière approfondie. Il n'y avait pas une conscience de la nécessité de construire une langue française qui soit nôtre. Et je crois que ma génération, c'est celle qui a bénéficié des analyses de Glissant et tout ça, qui nous a précédés, c'est ma génération qui, la première, a pris la chose en main.
Oui. D'ailleurs, vous avez coécrit un dictionnaire créole, on le disait, qui est une référence, qui a été d'ailleurs réédité, preuve que c'est un ouvrage demandé. Pourquoi c'était si important pour vous de coucher le créole sur le papier comme ça? Est-ce que c'est un besoin de légitimité, de mémoire, de transmission?
Non, c'est très simple. Imaginez un seul instant que le latin n'ait jamais été écrit. Que serait la culture européenne? Le latin n'a jamais été écrit. Donc, ni Cicéron, ni rien.
Mais on est dans une culture de l'oralité, on peut se poser la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça dans l'oralité?
Non, mais je veux dire que si vous prenez la culture, nos ancêtres, les Gaulois. Mais quand je dis à l'école, je dis oui, mais pourquoi ils ne nous apprennent pas la langue gauloise? Et un jour, un maître, à l'école, comment il m'a dit, mais le Gaulois ne s'écrivait pas. Je dis, donc il reste rien, alors. Oui, six mots. Bon, je veux dire que une langue qui n'est pas écrite est condamnée à disparaître.
À mourir.
Toutes les langues meurent, attention. Hein. Toutes les langues meurent. Alors, garde le même nom. Le français du Moyen-Âge, il s'appelle français aujourd'hui, mais si vous étiez au Moyen-Âge, vous comprendriez rien à ce qu'on vous raconte. Donc, la langue, elle meurt, elle change, elle disparaît, etc. Mais la nécessité de l'écrire, c'est ce qui permet la perduration de la langue, et pas seulement de la langue, de tout l'imaginaire que la langue transporte. Parce qu'une langue, c'est pas un outil pour dire, amène-moi telle chose, fais. Non. C'est l'imaginaire d'un peuple peut être collecté, rassemblé, transformé grâce à l'écriture. Donc, quand j'entends les gens dire, il faut parler créole, etc., c'est dépassé, ce truc-là. Il faut écrire le créole. Manque pas l'écrire. Non. La nécessité, là, c'est d'écrire la langue, sinon elle va disparaître.
Votre nouveau roman, La savane, Papa de Gaulle et la négresse en des veines, déjà rien que le titre, c'est un monde entier, on dirait une fresque historique, mais aussi un théâtre d'ombres, de figures oubliées. Pourquoi ce titre si riche, si sonore?
Bien parce que c'est une audace que je me suis permis. Le personnage principal, c'est la savane.
Oui.
Donc c'est elle qui est le personnage principal. Donc normalement, ce sont des êtres vivants. Alors, le plus souvent des humains, mais parfois des animaux, dans les contes, qu'on peut l'appeler, à parler aussi, même si, mais c'est rarissime que des arbres ou des, ou des collines ou des bâchets parlent, des rivières. Je me suis dit que la savane devrait parler de sa propre voix, parce que c'est un endroit emblématique, où beaucoup de grands événements extraordinaires, pour la Martinique se sont produits. Alors, je le dis dans le désordre. L'arrivée de la Vierge du Grand Retour en 1948, l'arrivée bien avant cela du roi Béhanzin du Bénin avec ses six co-épouses arrivant et débarquant là, et les Martiniquais, ils n'ont jamais vu un roi africain, c'est sous la savane. Le discours de De Gaulle, mon Dieu, que vous êtes français, c'était sous la savane. Donc je veux dire que ce petit rectangle de terre qui est souvent découpé, allumé des parkings, on l'enlève, on le refait, etc. Quelque part, c'est davantage que ce que les techniciens appellent un poumon vert. Vous connaissez le langage administratif, c'est le poumon vert de la ville. Oui, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, j'ai voulu faire cette savane parler à travers des personnages, mais elle parle aussi elle-même. Et sans m'en tenir à un ordre chronologique du tout, d'évoquer les grands moments.
On va s'attarder un petit instant justement sur ce refus de la chronologie. Vous refusez la chronologie, vous le dites. Vous laissez la savane recomposer les souvenirs à sa manière. Est-ce que c'est une façon de dire que l'histoire coloniale ne peut pas se raconter dans l'ordre, à la française, dans l'ordre?
C'est-à-dire qu'il y a deux manières de raconter l'histoire. Il y a une manière scientifique de raconter l'histoire, et là on est obligé de respecter les siècles, les périodes, etc. Ça je ne conteste pas ça du tout. Mais l'histoire, elle est vécue aussi dans l'imaginaire, dans notre tête. Et l'écrivain, lui, son rôle, c'est d'inventorier l'imaginaire, de l'explorer. Donc, il n'est pas comme un historien, il n'a aucune obligation de respecter un ordre chronologique. Même si beaucoup de romans le font, mais je pense que c'est soit par paresse ou par manque d'imagination. Mais un roman n'a pas à respecter d'ordre chronologique. On n'est pas des historiens, même si on puise dans l'histoire. Et nous, les écrivains antillais, alors là, on puise beaucoup dans l'histoire parce qu'il nous faut reconstruire notre histoire. Hein.
Vous le disiez, dans ce roman, c'est le lieu qui parle, c'est la savane. C'est pas un personnage, pas un narrateur classique, la savane elle-même. Qu'est-ce que ça change d'écrire à partir de la mémoire d'un espace?
Eh bien, ça change beaucoup de choses, parce que la mémoire d'un homme, c'est au maximum 100 ans. La nature, malheureusement, ne nous accorde au maximum que 100 misérables années. La savane de Fort-de-France est immémoriale. Elle a commencé avant l'arrivée des Européens. Elle a commencé avec l'arrivée des Arawaks, qui venaient du plateau des Guyanes. Alors, l'endroit était un marécage, enfin, une mangrove.
Mangrove, oui.
Qui a été asséché, ensuite les Caraïbes, Kalinago sont arrivés, ensuite les Européens, les esclaves africains. Je veux dire que un lieu est la mémoire de tous les événements qu'ont pu vivre une société, qu'a pu vivre une société, alors même que ceux qui vivent dans cette société, leur mémoire ne dépasse pas une centaine. Alors il y a bien sûr les livres, ils peuvent aller lire dans les livres, mais je parle de la mémoire vivante. La savane, sa mémoire est vivante, parce que elle est de manière immémoriale le réceptacle de plein d'événements.
Bien sûr. On croise dans ce livre, on va s'intéresser au personnage, on croise dans ce livre Monsieur Nestor, Dame Amélia, fils du diable en personne. Vous écrivez comment on compose un carnaval. Est-ce que vous avez pensé ce livre comme une sorte de défilé des mémoires créoles?
Oui, un peu, c'est-à-dire comme, comment dirais-je, le recensement de certains événements qui peuvent, a priori, paraître sans intérêt. Par exemple, les combats de major, ça n'existe plus, ça ne dit plus rien aux jeunes générations. Et dans les quartiers de Fort-de-France, mais dans les communes, il y avait, ça nous raccueillait encore le major. Bon, espèce de policier informel, je dirais, qui faisait régner l'ordre, mais plutôt pour eux, quoi. Et ça, c'est important dans notre imaginaire, parce que certains comportements que nous avons, notamment dans le monde politique, ben, ils sont héritiers de ces comportements de major. Mais ça, on ne le sait pas. On dit, ah oui, mais c'est son dictateur, galimonier, il a fait. Mais quand on l'examine bien, on voit que le comportement de tel ou tel politicien, je prends un politicien, mais ça peut être dans le domaine, relève du comportement des majors.
Comme un héritage.
Ah oui. Et alors, c'est un héritage qui n'est pas consciemment perçu, mais qui est là.
Dame Amélia, ce personnage central de la négresse en Dévennes, elle traverse le roman comme une sorte de figure hybride entre folie, sagesse, marginalité et prophétie. Est-ce qu'elle est réelle, symbolique? Et puis, est-ce qu'elle vous ressemble un petit peu quelque part?
Ben, c'est-à-dire qu'elle représente tout ce qu'on appelait à l'époque, le mot a été détourné en malforme. C'est-à-dire que les Martiniquais d'aujourd'hui n'ont pas l'idée de cette période où il y avait une misère crasse en Martinique. Je vous donne un seul exemple. Quand vous prenez un autobus, vous aviez des gens qui avaient une carte d'indigent. C'est-à-dire qu'ils ne payaient pas le bus, mais ne payaient pas le médecin. Mais pour obtenir cette carte d'indigent, c'est quand même pas fier.
Il fallait être dans une misère.
Bon, mais il n'y a pas de carte d'indigent aujourd'hui. Il y a le RSA, des trucs comme ça, mais en fait, ça n'a rien à voir. Donc, je veux dire que quand on prend notre histoire, on s'aperçoit que la femme, bien sûr, comme dans grand nombre de sociétés, a été non seulement celle qui a porté la société, mais celle qui a subi le plus de le poids, n'est-ce pas, de notre histoire tragique. Hein. Donc, si nous n'y anticoulons, c'est parce que ces femmes-là, eh ben, c'est Bichéa Tchibéo. Il n'y a pas d'Obama pendant trois siècles. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'enfants, d'hommes noirs et de femmes blanches pendant 3 siècles. Le Martinique, oublie ça, il n'y a pas d'Obama pendant 3 siècles. Nous, là, Béticoulé, ouais, là, c'est pas...
Fruit de viol.
C'est bêtis. Hein. Et puis, Nagues, là. Mm. Oui, mais est-ce qu'elle était d'accord? Ou est-ce qu'elle avait le choix? Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Contact de race et de civilisation en Martinique, publié en 1956 par un anthropologue français. Il s'appelle Michel Léris. Il y a une note de bas de page, il interroge un riche béquet, celui qui possédait l'usine du Larenti, qui a été détruite, qui était en face de l'aéroport. C'est un livre, c'est une mission de l'UNESCO. C'est pas n'importe quoi. Il écrit dans la note de bas de page, j'ai interrogé monsieur Intel, je préfère ne pas dire son nom, qui me dit qu'il a 40 petits mulâtres. En 1956. C'est-à-dire qu'il a fait 40 enfants, une quarantaine d'enfants, avec des femmes noires. Donc, mon gars, il y a ces femmes talales, des nègres sans des veines. Parce que, elles venaient sur l'habitation pour demander de l'argent pour leur enfant, le scolariser, etc. Alors, même si elles échappaient à l'habitation, et elles descendaient dans l'Anville, mais quand elles descendaient dans l'Anville, hormis le petit carré, le quadrilatère où il y avait la petite bourgeoisie mulâtre, il y avait tout autour, Volga Plage, Trinel, et Texaco, etc., où la faculté tient Bélarel, c'est vraiment. Mm. Les hommes aussi, mais comme c'est la femme qui garde les enfants...
Le foyer, la famille.
Ah bah oui. Mm.
Ce livre est annoncé comme un tome 1.
Oui.
Est-ce que vous voyez cette œuvre comme un cycle historique, ou est-ce que c'est plutôt ce passé qui réclame du temps, de l'espace, et qui ne peut pas tenir dans un seul volume?
Non, en fait, c'est mon éditeur, que je tiens à saluer d'ailleurs, Florent Charbonnier, directeur des éditions
Caraïbes Éditions,
qui fait un travail absolument admirable, hein, et qui m'a proposé de faire 2 tomes, parce qu'il trouvait que c'était peut-être trop gros. Il a certainement raison, parce que, bon, j'ai dit à l'éditeur, hein, en France et tout, quand j'envoie un manuscrit, ils me disent « vous m'emmerdez », puis ils enlèvent 100 pages, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais moi, comme je suis feignant, j'ai pas envie de retravailler. Je dis oui, je suis d'accord. Donc, les éditeurs, c'est un vrai métier. Les gens s'imaginent qu'éditeur, c'est pas un métier. Éditeur, c'est quelqu'un qui va lire votre manuscrit, qui va voir ce qui va pas, ce qui va, etc., qui va vous proposer des choses que vous n'êtes pas obligé d'accepter.
Mais il vous accompagne.
Mais non, mais il vous accompagne dans le travail, lui. Mmh. Donc, il m'a dit, écoute, ton texte là, ça serait mieux si c'est en 2 tomes. Moi, en général, quand c'est des éditeurs, et je sais que c'est des gens sérieux, j'accepte le
Et plus. Comment vous avez scindé, alors, dans le tome 2, qu'est-ce qu'on va retrouver?
Alors, dans le tome 2, on va retrouver 2-3 personnages. Alors, quand je dis 2-3 personnages, mais aussi des personnages, là, que j'ai peu développés. Je donne un exemple. Le fameux Jésus.
Oui.
Espèce de béquet, et abandonné par sa caste, qui s'asseyait sur la savane et qui restait toute la journée sans prononcer un mot. Et quelqu'un m'a, en lisant le tome 1, m'a dit, mais tu as oublié quelque chose. S'agissant, je dis, ah bon, quoi? Il m'a dit, il y avait prise unique au centre-ville. Et ça, c'est là que les lycéens, ils aimaient aller, etc., dans les années 60, 70. Et ce monsieur faisait les devoirs de maths de troisième gratuitement pour les élèves, sans parler. Alors les élèves venaient, quand ils ont su ça, qu'il était très fort en maths, ils lui donnaient le devoir. Il faisait, mais sans parler. Mais c'est extraordinaire, ça. Donc, je vais reprendre.
Le chat GPT vivant.
Ben oui. Donc, je vais reprendre certains des personnages. Mais il y aura d'autres personnages, parce qu'il y a d'autres périodes. Parce que ça va jusqu'à l'époque moderne. Hein. Là, ça va les manifs sur le chlordécone, enfin, les statues qui sont brisées, oui, etc. Et tout ça. Je veux dire que la savane, elle n'est pas dans le passé, elle est dans le présent.
Elle
aussi.
Vit.
Elle se souvient qu'on a détruit la statue de Joséphine de Lédenbuc.
C'est le moment de retrouver le coup de cœur du libraire. Ce soir, on prend la direction de Fort-de-France à la librairie Casabule. Jean-Claude Malot, bonsoir.
Bonsoir Erika, bonsoir Monsieur Raphaël Confiant. Aujourd'hui, j'ai la dure épreuve de pouvoir donner un coup de cœur sur l'ensemble de votre œuvre, qui est loin d'être facile, surtout en 2 minutes. C'est une œuvre prolifique, qui reprend effectivement beaucoup de données sur la Martinique. Vous êtes professeur, vous êtes à la fois militant, et vous êtes surtout un écrivain reconnu internationalement. Vous êtes d'ailleurs l'écrivain le plus lu en Martinique, en tout cas à la librairie La Casabule, que ce soit par les Martiniquais ou les gens venant de l'extérieur. Si j'avais à retenir 3 œuvres ce qui est totalement, qui n'est pas du tout objectif d'ailleurs. Je m'arrêterai bien sûr à la savane, Papa de Gaulle et la négresse en Dévennes que vous venez de décrire, qui met en scène la savane, bien sûr, qui est un lieu emblématique, surtout quand on habite comme nous à Fort-de-France. Et puis des personnages comme Nestor, un communiste, Dame Amélia, une négresse en Dévennes. Enfin, et le discours du général de Gaulle, qui est vraiment un discours presque, j'allais dire, on frôle l'humour hein, sur la francité de l'île. Hein. Et le deuxième roman qui m'interpelle, il y en a trois, je veux dire, c'est aussi Stéphanie de Saint-Clair, qui s'appelle aussi La Reine de Harlem, où il y a eu aussi une pièce de théâtre qui a eu un gros succès. Et il y a aussi, d'ailleurs, des bandes dessinées qui ont été tirées, j'en profite pour en parler, sur Mme Sinclair. Et ce roman retrace très très bien l'histoire de Stéphanie Sinclair, une femme martiniquaise devenue une figure emblématique de la pègre à Harlem dans les années 20-1940, c'est-à-dire à l'époque d'Al Capone. Et enfin, le troisième roman qui m'a beaucoup ému, c'est Le Bataillon Créole, qui rend hommage aux soldats antillais et guyanais engagés dans la Première Guerre mondiale, explorant leur vécu sur le front européen, le racisme et les discriminations qu'ils ont subies. Et je terminerai malheureusement à décrire l'ensemble de votre œuvre par les dictionnaires aussi, qui sont, vous avez fait plusieurs ouvrages et depuis beaucoup d'années. On peut citer les deux ouvrages actuellement présents dans nos linéaires, c'est le dictionnaire créole martiniquais français et le dictionnaire des néologismes créoles qui ont été tous les deux réédités. Voilà. Tous les romans, vous allez les retrouver, vos romans, on les retrouvera chez Gallimard ou bien sûr chez Caraïbes Éditions qui en ont fait une édition de poche. Et aussi d'autres éditeurs, mais voilà les deux principaux. Merci et bonne soirée.
Merci Jean-Claude Malot de la librairie Casabulle. Raphaël Confiant, l'auteur le plus lu de cette librairie indépendante, c'est une information que vous aviez ?
Non, mais je remercie Monsieur Malot de ce qu'il a dit sur mon œuvre, hein, en œuvre entre guillemets, parce qu'il ne faut pas se monter la tête non plus. La littérature n'est qu'un domaine parmi d'autres de la réalité. Il y a des écrivains qui se montent la tête et qui pensent que la littérature peut changer le monde, ce n'est pas vrai. Elle l'adoucit. Elle permet de le supporter, mais c'est, je crois pas. Donc, je remercie Monsieur Malot de ce qu'il vient de dire. Je ne le savais pas, et pour une raison très simple, que 99% des gens ne savent pas. Écrivain n'est pas un métier. Dans un pays de 67 millions d'habitants comme la France, 42 personnes vivent de leur plume. Tous sont un vrai métier à côté. Universitaire, avocat, enseignant, etc. Deuxième élément. Sur un livre qui est vendu 10 euros, je dis ça parce que beaucoup de gens me disent « Ah, pourquoi écrire le livre d'Autriche ?» Sur un livre qui est vendu 10 euros, l'auteur a 8%. C'est-à-dire qu'il touche 80 centimes. Sur les 80 centimes, l'État, les impôts prennent 20 centimes, il lui reste 60.
C'est ça, faut comprendre la logique.
Imaginez-vous ouais. le nombre de milliers de livres qu'il faut vendre pour avoir un salaire, un SMIC. Donc, j'ai tenu à rétablir à dire ces choses parce qu'en général, les écrivains, ils sont trop, comment dirais-je, discrets sur la chose. Ils veulent laisser croire que ils vivent de leur plume. Ce n'est pas vrai. C'est en Martinique, il y a zéro écrivain qui vit de sa plume. Et en France, sur 67 millions, il y en a 42. Donc, c'est pas un métier. Si on veut gagner de l'argent, on fait rappeur, on fait musicien, on fait n'importe quel métier, entrepreneur, mais certainement pas écrivain, quoi.
On va parler de cette nouvelle génération d'écrivains caribéens qui tracent leur chemin parfois là où on ne les attend pas. Gaël Octavia dans La Nouvelle, prix Goncourt de La Nouvelle d'ailleurs cette année. Michael Rock dans l'afrofuturisme créole par exemple, pour ne citer qu'eux. Ils ne se réclament pas tous de la créolité, mais on sent qu'ils portent à leur manière les mémoires et les langages du monde antillais. Est-ce que vous les lisez, ces nouveaux auteurs ? Est-ce que vous vous sentez en dialogue avec eux ou est-ce que vous les regardez avancer avec un certain recul ?
Alors, je dis la génération qui est juste après la mienne. C'est-à-dire, Mérine Sekou,
oui.
Jerry Létang, etc. Mais je ne suis pas encore arrivé. Alors, ces gens dont je vous parle, ils ont entre 50 et 60 ans.
Oui, bien sûr. Oui.
50 et 60. Oui. Donc, c'est celle qui est juste après la mienne. Mais ceux qui ont 40 et quelques, là, je dois dire que malheureusement, non.
Je vais vous offrir le livre,
vous allez peut-être. Mais je ne les ai pas lus. Mais je suis très content parce que...
Gaël sera là bientôt, d'ailleurs, Gaël.
S'il n'y a pas d'écrivain, s'il n'y a pas de nouvelle génération d'écrivains, la littérature martiniquaise, elle risque de s'éteindre. Parce qu'avec les nouvelles technologies, les gens sont plus TikTok qu'écrire un livre. Hein. Donc...
Mais avec notre vidéo là qu'on a fait sur le avec vous sur Instagram, ils vont lire.
Ben écoutez, je veux bien vous croire, mais même moi, bien que vieux, je suis fasciné par les réseaux sociaux.
Ne me dites pas que vous êtes plus TikTok maintenant.
Non, ah non, 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 du tout. Non, non, non. Je n'ai qu'un seul réseau social, Facebook. Je n'ai ni Instagram, ni TikTok, ni rien. Mais je ne veux pas être un vieux con, un vieux schnock qui
vous restez connecté.
Donc j'ai pris quand même un seul qui est Facebook. Et je perçois le côté, comment dirais-je, c'est un côté addictif, mais qui est dangereux. Parce que vous ne percevez pas le temps que vous passez avec ça, et c'est autant de temps que vous perdez pour ne pas lire un livre. Et je me dis, si moi, à mon âge, ça joue de manière addictive, imaginez quelqu'un qui a 20 ans, c'est pire. Donc je suis content qu'il y ait cette nouvelle génération d'écrivains. Je ne les ai pas encore lus. J'ai lu la génération qui est juste avant eux, qui est sous-estimée d'ailleurs. Le livre de Mérine Sekko, de Géry Létan, d'Alfred Alexandre. Il y a toute une génération qui est intermédiaire entre la mienne et celle que vous citez, qui est injustement traitée. Et qui
est un peu sous-cotée, vous pensez? Oui.
Ah oui, elle est injustement traitée. Et ceux-là, par contre, je les ai lus. Alors, je vais lire la nouvelle génération. Si vous m'offrez...
Je vais vous offrir.
Voilà, je vais le lire. Mais bon, moi, ce qui m'importe, c'est pas tellement dans quel courant ils s'inscrivent. C'est qu'ils écrivent, qu'ils publient. Parce qu'il faut de nouveaux auteurs. Quel que soit... ils n'ont pas besoin de se mettre dans la créolité, dans la négritude, dans n'importe quoi. Qu'ils inventent leur propre... C'est ce que nous avons.
Que ça avance. Mais ça continue d'avancer, d'être vivant.
Ben écoutez, oui, chaque génération invente sa propre vision du monde. En littérature, ça doit être cela.
On s'approche doucement de la fin de l'émission. Avant de refermer cette belle conversation, je vous ai demandé en amont de choisir un morceau de musique. Vous avez choisi ce fado portugais, intense et bouleversant, Meu Fado Meu, de la chanteuse portugaise Marisa. Une chanson traversée d'âme, de mémoire, de destin. Qu'est-ce que ce titre cristallise, représente pour vous?
Ben c'est parce que je suis quelqu'un qui a un problème, une maladie psychologique qu'on appelle l'anhédonie, un terme banal, bizarre. C'est-à-dire que je suis insensible à la musique, mais pas au chant. C'est-à-dire que quand j'écoute ce qu'on appelle musique, j'entends, ça me bouleverse, ce que chante la personne, mais...
C'est pas les instruments,
quel instrument? Je sais pas, de toute façon ça n'a aucun effet. Alors, c'est quand même très bizarre. Mais quand j'entends un chanteur de bel air, j'entends pas le tambour. Quand j'entends Marisa, le fado, oui, j'entends toute la tristesse de la voix, la profondeur, mais je n'entends pas les instruments derrière.
Merci Raphaël Confiant pour votre entièreté ce soir. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'était À la page, votre émission littéraire. Très belle soirée à l'écoute de RCI.
C'est moi qui vous remercie.
Trago fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim. Mais amado, eu canto um país sem fim, o mar, a terra.
Merci à vous, Raphaël, de vous être confié en toute confiance au micro d'Erika Govindorazo. Et chers auditeurs, votre rendez-vous revient jeudi prochain.
Récupérer les enfants à l'école, ok. Chargement des courses, ok. Grâce à son volume de coffre. Sortie plage à Lanstrabo, ok. Avec sa garde au sol surélevée. Mon Citroën C3 est toujours prêt. Et en plus, avec 8 ans de garantie offerte, il est à mes côtés pour longtemps.
Jusqu'au 30 juin, Sodiva Citroën vous fait profiter de 8 ans de garantie offerte sur toute la gamme Citroën. Par exemple, le Citroën C3 U Essence, 100 chevaux turbo, plus 8 ans de garantie offerte, est à 16 990 euros.
Offre réservée aux particuliers, voire conditions en concession. Pensez à covoiturer.
Soyez à l'heure avec Guy Viol.
On marque l'heure juste avant le retour de l'actualité. Il est 19h.
Votre papa mérite le meilleur pour sa fête. Offrez-lui un cadeau Giviol. Les plus belles surprises sont déjà là. Par exemple, effet waouh garanti avec le téléviseur LG 4K UHD 165 cm à seulement 699,99€. La plus belle des fêtes des pères, c'est maintenant et jusqu'au 14 juin dans vos magasins Giviol Cluny et Acajou. Retrouvez toutes nos promos sur promoguiviol.com.
Liquidation totale dans votre boutique Maison 123 Paris au